t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, messieurs, bonjour et merci de suivre la fréquence de la paix Radio Capi qui vous propose ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs. Dans un rapport publié la semaine dernière sur le fonctionnement de la justice en RDC, l'ONG Action Congolaise pour l'accès à la justice à Cage dénombre de janvier 2019 à ces jours 12 800 cas d'ineffectivité des voies de recours, trafic d'influence, déni de justice et d'impunité des faits de corruption. Dans ce rapport, Cage condamne les interférences politiques qui obstrue l'exécution des décisions judiciaires et sape ainsi la crédibilité de l'ensemble de l'appareil judiciaire auprès de la population. Comment réagissez-vous à ces rapports et que faire pour améliorer ces secteurs de la justice? 081 890 4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Polydor Basunga assure la mise en onde de ce magazine réalisé par Jocelyne Mukendi. Quant à moi, Pierrot et la Mégis, c'est un réel plaisir de vous retrouver encore, fidèles auditeurs. Bienvenue à toutes et à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Et pour en parler, nous recevons dans ce studio Maître Georges Kapiamba, président de l'ONG Action Congolaise pour l'accès à la justice à Cage. Maître Kapiamba, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. 12 800 cas, c'est quand même trop pour à peine, on peut dire, une année et demie, pas même deux ans.
Oui, 12 800 cas, c'est quand même, c'est beaucoup, c'est trop inquiétant pour une période allant de janvier 2019 au 30 mai 2021. C'est vraiment beaucoup. Nous avons illustré ça par des cas les plus emblématiques et les gens pourront trouver les détails de tout ce que nous soutenons dans les rapports détaillés qui sera mis en ligne sur notre site web www.acagerdc.org. Mm-hmm. Incessamment là.
Alors, est-ce qu'il y a eu des signaux qui vous ont poussé vraiment à mener cette enquête sur cette question de la justice, avant non. qu'on évoque c'est quoi exactement le problème?
Non, mais nous le faisons parce que ça fait partie de notre mandat. Nous sommes une organisation de défense des droits de l'homme. Nous travaillons principalement dans les secteurs de la justice et donc nous faisons un monitoring permanent, quotidien, sur le fonctionnement des institutions de la République, principalement l'institution pouvoir judiciaire. Mm-hmm. Et donc, c'est dans le cadre de ce travail que nous avons pu évaluer le fonctionnement de la justice, sa capacité à lutter contre la corruption, le détournement des deniers publics et blanchiment des capitaux, mais surtout à protéger les droits humains.
Alors, revenons maintenant j'ai pris juste quelques mots. Vous parlez d'ineffectivité des voies de recours, trafic d'influence, déni de justice et d'impunité, des faits de corruption. Ça veut dire quoi exactement pour nos auditeurs?
Alors, lorsque vous prenez le premier cas, ineffectivité de voies de recours, là, nous avons recensé plusieurs cas qui établissent que des citoyens ne savent plus recourir à la justice, ne savent plus demander et obtenir la justice. Pourquoi? Parce que toutes les voies qui sont prévues par les lois de notre pays ne fonctionnent pas. C'est des voies de recours qui sont devenues illusoires. Pour quelles raisons? Pour deux raisons principales. La première raison, c'est que il existe aujourd'hui beaucoup de frais illégaux qui empêchent des gens de pouvoir employer les voies de recours légal pour faire entendre leur voix, faire reconnaître leurs droits. Et ça commence principalement lorsque quelqu'un dépose une plainte. Il est opposé dans un différend à son voisin ou à quelqu'un d'autre ou à son employeur. Dès qu'il va pour rechercher cette justice, en s'adressant que ce soit à la police, au parquet, au tribunal, au lieu qu'on puisse le prendre en charge, prendre son dossier en charge, on commence déjà
à exiger
l'argent. Et ce n'est pas peu d'argent. Si je prends seulement pour les travailleurs, ceux qui ont été déjà renvoyés de manière abusive, pour obtenir ne fût-ce que le procès verbal de non-conciliation auprès des inspecteurs du travail, il faut débourser pas moins de $100. Mais avant d'ailleurs de faire enregistrer la plainte auprès de l'inspecteur, mm-hmm. il doit payer $30. Mais dites-moi quelqu'un qui vient se plaindre parce que son employeur ne l'a pas payé, ça fait 3 ans. Vous lui demandez déjà de vous payer $30 pour enregistrer sa plainte et $100 pour obtenir le procès verbal. C'est comme ça que nous avons enregistré beaucoup de cas de personnes qui doivent avoir accès à la justice mais qui ont dû abandonner.
Et trafic d'influence.
Alors, trafic d'influence se présente sous 3 formes. Première forme, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, comme nous le disons dans les rapports, ne peut avoir accès à la justice, ou mieux, les certains magistrats distribuent la justice en fonction de l'avoir et du pouvoir. Ça veut dire que lorsque vous possédez une fortune, à ce moment-là, vous pouvez avoir droit à la justice. Pourquoi? Parce que vous savez payer à tous les stades du processus. Ou si vous êtes au pouvoir, là vous êtes respecté, vous mm-hmm. êtes craint, parce que vous occupez une position quelconque qui vous donne une certaine ascendance sur eux. Et donc, cela fait intervenir une sorte de trafic déjà au niveau du magistrat lui-même, mm-hmm. qui, en utilisant seulement votre qualité, il pense qu'il peut vous faire bénéficier de la justice. Mm-hmm. Deuxième forme, c'est que, principalement, lorsqu'il s'agit de personnes démunies, qui sont opposées aux personnes financièrement fortes ou politiquement fortes, ce sont ces personnes-là qui utilisent leur position pour influencer les cours de la justice, les décisions. Et en définitive, même si vous avez le droit de votre côté, mais parce que vous êtes démunis, vous êtes pauvre, vous perdez. Donc, il y a ce trafic d'influence. Enfin, même lorsque vous avez déjà gagné le procès, vous avez une décision, nous avons dénombré plus de 100 décisions judiciaires rendues qui ont déjà acquis la force de la chose jugée, mais ces décisions-là ne sont pas exécutées. Mm-hmm. Quand ils arrivent au niveau de l'exécution, on les fait stopper par principalement des personnes qui occupent des positions politiques. Et même les chefs, certains chefs de juridiction, mm-hmm. il suffit seulement qu'ils soient contactés par la partie qui a perdu ou qu'ils lui promettent des avantages, immédiatement ils donnent l'instruction aux huissiers pour arrêter. Et il y a eu même de décisions dans lesquelles on a même déjà exécuté. Notamment, on a déjà expulsé quelqu'un de la maison. On le prend, on le réhabilite encore, on le replace. On chasse même la personne qui a gagné le procès. Nous avons illustré un cas le plus emblématique ici à Kinshasa, sur un immeuble situé au numéro 46 de l'avenue Kalemi, dans la commune de la Gombe, où un monsieur, Godé Moussasse, a gagné le procès. Il a acheté l'immeuble à travers l'appel d'offres, c'est-à-dire une vente publique organisée mm-hmm. par la justice, à la suite de la demande d'une banque. Mais la décision rendue qui a déjà acquis la force de la chose jugée, on exécute, on expulse les personnes qui étaient sur le lieu, les personnes sont expulsées, lui installé avec ses agents, mais dans les minutes qui ont suivi, c'est les huissiers ont reçu des pressions et la police pour reprendre les mêmes personnes et casser les cadenas qui étaient déjà placés, on les a replacés sur le lieu. Voilà. Et donc voilà comment fonctionne le trafic d'influence.
Et le déni de justice, d'impunité, des faits de corruption.
Alors, déni de justice, c'est monnaie courante. Nous avons, même au sein du pouvoir judiciaire, mm-hmm. lui-même, nous avons reçu beaucoup de cas de magistrats qui ont déposé des plaintes. Que ce soit au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, au niveau même des tribunaux administratifs, même au niveau du pouvoir judiciaire, c'est-à-dire devant les cours de tribunaux des droits communs, pour réclamer X, Y droits. ces dossiers n'ont jamais été traités, sont gélés jusqu'à ce jour. Et ces personnes ne savent plus à quel sein se vouer.
Alors, maître, si on peut poser les diagnostics en un mot, d'où vient le problème?
Alors, le problème, s'il faut identifier les causes, les causes sont de trois ordres. Premièrement, il y a le manque de moyens de fonctionnement pour les pouvoirs judiciaires. Nous avons même démontré dans les rapports qu'en violation de l'article 149 de la Constitution, qui dit que le pouvoir judiciaire, à l'instar de deux autres pouvoirs, c'est-à-dire pouvoir exécutif et pouvoir législatif, a droit à une dotation budgétaire. C'est-à-dire que le Conseil supérieur de la magistrature doit élaborer son budget, devant prendre en compte tous les aspects logistiques, mais aussi de fonctionnement, et devant prendre aussi en compte les problèmes, par exemple, des soins médicaux, rémunération, primes des magistrats. Mais quand ce budget-là est élaboré, envoyé au gouvernement, comme la Constitution l'a dit, pour être intégré dans le budget général, le gouvernement opère des coupes. Coupe la plupart des rubriques, envoie au Parlement, et à ce niveau-là, on coupe encore sérieusement ces budgets jusqu'à les rendre absolument insignifiants. De sorte que ce qui est même prévu là dans les budgets généraux, on arrive, les pouvoirs judiciaires n'arrivent même pas à avoir 50%. Donc, le pouvoir judiciaire est privé de moyens de fonctionnement. C'est vraiment une situation inacceptable. Deuxième cause, c'est l'absence de sanctions. Au sein du pouvoir judiciaire, nous avons noté, dénombré, que depuis, pendant les deux ans, la période de notre enquête, qu'il n'y a eu que 5 dossiers ouverts au niveau du Conseil supérieur concernant des hauts magistrats. Et 5 dossiers sur une centaine de dénonciations et de plaintes déposées par des justiciables. Comment expliquer que sur une centaine de dossiers, on puisse enregistrer, ne retenir que 5 dossiers? Et même les 5-là ne sont jamais passés devant la chambre des disciplines pour juger et sanctionner les auteurs. Vous voyez, s'encourage maintenant les abus, s'encourage certains magistrats à s'affranchir, à penser qu'ils sont affranchis des contraintes du droit. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, parce qu'il n'y aura pas de sanctions, donc l'impunité totale. Et troisièmement, et toujours dans par rapport à cette cause, il y a aussi le manque des magistrats. Aujourd'hui, nous avons, pour toute la République, plus ou moins 2500. Parce qu'avant, on parlait de 5000, de 3500, mais après vérification, il paraît que le surplus, là, c'était d'effectif. Mais quand ils ont retravaillé maintenant avec rigueur, on a ramené ça à moins de 3000. Imaginez-vous quand vous
pour
prenez 2500
de plus de 80 millions d'habitants.
Donc ça veut dire que approximativement on peut avoir un magistrat pour 10 000. Pour 20 000
personnes. Oui.
Mais comment voulez-vous que les gens puissent avoir accès à la justice dans ces conditions-là? C'est impossible.
Voilà.
Et donc en fait, nous avons parlé aussi du faible engagement du pouvoir judiciaire dans la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics et le blanchiment des capitaux. Nous avons dénombré plus de 200 dossiers qui ont été ouverts, sans oublier plus de 500 plaintes et dénonciations faites soit par des médias, soit par des ONG, en rapport avec des faits de corruption, de détournement des deniers publics. Seul à ce jour, nous n'avons comptabilisé que au moins 5 dossiers dans lesquels il y a eu déjà des jugements. Vous vous imaginez? Et là, c'est seulement dans la ville de Kinshasa. Dans les provinces, n'en parlons pas, parce que nous n'avons dénombré que 2 cas seulement dans la province du Sud Kivu. Dans d'autres provinces, aucun dossier en matière de corruption ou de détournement, alors que les dénonciations sont légion.
Alors, merci Georges Kapiamba. Avant d'écouter les auditeurs, en un mot, est-ce qu'il y a là une volonté réel à dessein? Est-ce que c'est fait à dessein?
Oui, politiquement, nous pensons que c'est fait à dessein pour gêner le pouvoir judiciaire, pour qu'il ne puisse pas fonctionner, c'est-à-dire assurer sa mission de contrôler, de surveiller et de sanctionner ceux qui violent les lois de la République.
Cela veut dire, vous dites que c'est fait à dessein pour gêner. C'est à l'extérieur, mais à l'intérieur aussi du pouvoir judiciaire lui-même.
À l'intérieur aussi, parce que comme je l'ai mentionné, même s'agissant des trafics d'influence, ce sont des cas que nous avons dénombrés, par exemple à Calémie, où vous avez des gens qui ont gagné des décisions, des jugements au tribunal de grande instance, mais qu'on ne sait pas exécuter parce que le chef de la cour, le premier président, empêche, donne les ordres pour qu'on ne puisse pas exécuter. Voilà. Et nous avons donné beaucoup de cas d'ailleurs.
Voilà, merci beaucoup Maître Georges. On a beaucoup d'auditeurs sur les standards qui voudraient bien intervenir, mais je rappelle encore que nous pouvons continuer à débattre sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Kapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de votre.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas bien travaillé.
Les intouchables, dans ce pays, n'existent pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Pierre, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes à Goma, au Nord Kivu. Bonjour Pierre.
Bonjour la Mégie, bonjour à l'invité. Georges Kapiamba, que je salue.
On vous écoute Pierre.
Merci beaucoup. Moi, je dirais que les rapports faits par l'ONG Action Congolaise pour l'accès à la justice à CAJ en dénombrant depuis janvier 2019, à ce jour, 12 800 cas d'ineffectivité des voies de recours et de trafic d'influence, de déni, de justice et d'immunité des faits de corruption, ne peut pas nous étonner. Et le problème qui cause à ce que notre justice ne fait pas son travail comme il fallait, est du fait que les procureurs, avocats, magistrats ne sont pas bien payés, comme l'invité vient de le dire, les budgets alloués à ce service judiciaire est encore très petit. En plus, ils sont nommés dans de différents états par les politiciens. Raison pour laquelle ce rapport de la CAJ doit avoir raison d'être avec tous ces éléments cités. Et le problème de plus est la séparation du pouvoir dans notre pays qui n'est pas bien respectée, où l'exécutif veut être au-dessus des autres, y compris aussi les judiciaires, aujourd'hui, qui n'est plus indépendant, mais dépendant à cause des influences de certains politiciens, chose qui ne permettra à ce pays d'être élevé, la nation, comme dit-on, que la justice élève une nation. Merci.
Merci beaucoup. Vous parlez là de la question des séparations de pouvoirs. Ça reste, hein, on le dit hein, chaque fois, mais dans les faits, les pouvoirs ne sont pas séparés. Hippo, vous êtes à Kamuna. Merci d'être avec nous en direct. Bonjour Hippo.
Bonjour à Radio Kapi. Bonjour au président Joël Katamba au studio. Tout en saluant les travaux abattus par ACAJ. Et c'est vraiment bon. Je note que le chemin à parcourir est encore long et la boucle pour une justice équitable pour tous dans notre pays, hein, bien que chantons à longueur de journée le peuple d'avoir état de foi et conscience, et d'une part. D'autre part, j'estime aussi à mon humble avis que cet idéal d'équité, malgré le mécanisme juridico-organique qui puisse être mis en place, passe par une limitation socio-structuro-politico-administrative de notre système démocratique. Dans les temps, dis-je, l'exemple du basculement de la majorité parlementaire mandature courant en est un. Même les grandes nations de justice viennent de très loin.
Oui, Hippolyte, on vous écoute, mais il y a trop de bruit hein, là où vous êtes, Hippolyte, oui, oui.
J'ai salué le travail battu par M. Georges Katamba et son équipe. Hein. J'ai dit que ces rapports dénotent que le chemin à parcourir est encore long et laborieux pour une justice équitable pour tous à notre pays. Et bien que chantons à longueur de journée, état de droit, d'une part. D'autre part, J'estime à mon implacie que cet idéal d'équité, malgré les mécanismes juridico-organiques qui puissent être mis en place, passe par une mutation socio-structuro-politico-administrative de notre système démocratique dans le temps. L'exemple du basculement de la majorité parlementaire mandature courante, en un an, même les grandes nations de justice viennent de très loin, dis-je.
Alors merci beaucoup, Hippo, merci beaucoup, parce que là on a eu des petits soucis avec votre ligne. On a aussi des hauts gracias qui est à Kananga, mais vous avez quand même dit que ça montre que les chemins à courir pour arriver à l'état des droits est encore très 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 long. Merci beaucoup, maître des hauts gracias, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes à Kananga au Kasaï Central, bonjour.
Bonjour monsieur JR, bonjour aussi à notre invité maître Georges Kapiamba. Nous saluons en tout cas le travail que la CAJ est en train de battre, n'est-ce pas, sur le territoire national. Et ça démontre bien, n'est-ce pas, que la CAJ a la mission de fournir, n'est-ce pas, un coup de pouce, n'est-ce pas, à la justice, n'est-ce pas, de la RDC par rapport, n'est-ce pas, des différentes communications. Mais d'emblée, je suis en train de dire que, Les juges congolais ont manifesté, n'est-ce pas, l'intention, n'est-ce pas, légitime de violer les différentes lois, aussi longtemps qu'eux-mêmes sont liés au respect de ces mêmes lois. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, et le parquet, et les offices, n'est-ce pas, les juridictions de poursuite et les juridictions de droit, et tout le magistrat viole intentionnellement les lois du pays. Vous remarquerez que les lois de poursuite devant le parquet, il y a beaucoup aujourd'hui maintenant de justiciables qui sont, n'est-ce pas, contraints à des libertés sous caution, qui dépassent même la marge légale. Et il y a une opportunité de poursuite à temps et à contre-temps, que le magistrat, n'est-ce pas, classe peut-être le dossier sans suite. Un plaignant qui vient se plaindre, mais au lieu que, n'est-ce pas, que la justice fasse son travail, il y a à tout moment une main noire politique qui intervient, soit c'est le pouvoir d'argent que les juges, les magistrats fléchissent aussi longtemps qu'on les valorise pour, n'est-ce pas, être une juridiction, un pouvoir indépendant, mais eux se sacrifient, ils laissent leur trône en se voyant, n'est-ce pas, peut-être, ou en allant se précipiter peut-être un morceau, n'est-ce pas, d'os dans la poubelle. Pourquoi je dis ça? Vous remarquerez qu'au niveau, n'est-ce pas, des juridictions de droit, et le magistrat aujourd'hui en RDC ne respecte même pas les heures d'audience. Une heure d'audience peut débuter à partir de 11h, 12h, 13h et personne ne le sanctionne. Personne, n'est-ce pas, ne peut interpeller aussi ces magistrats. Pas l'ordre, ils ne le font pas. Il y a des décisions, des dossiers plus en délibéré qui peuvent faire 6 mois à une année sans que les juges se prononcent là-dessus. Et aussi longtemps que les justiciables ou le prévenu croupissent en prison sans connaître leur sort. Il y a, n'est-ce pas, aujourd'hui, il y a la question de jurisprudence. Monsieur Juller, à l'époque, le magistrat, n'est-ce pas, on a dit un service loyal. Mais vous remarquerez dans les archives, n'est-ce pas, aujourd'hui de droit, on ne fait que recours aux jurisprudences qui ont été rendues il y a plusieurs décennies. Mais le magistrat d'aujourd'hui, ils ne sont pas à la hauteur. Le pouvoir judiciaire aujourd'hui ne nous fournit pas les jurisprudences actuelles. Pourquoi? Parce que les décisions de justice sont rendues en toute légèreté. Aujourd'hui, au Kasaï, je peux vous démontrer que sur 5 territoires, il n'y a aucune juridiction ou soit un tribunal de paix qui est opérationnel. Les magistrats ont peut-être valablement affecté, mais ces magistrats n'arrivent pas à leur milieu de travail. Mm-hmm. À qui la population peut, n'est-ce pas, aller, n'est-ce pas, de donner
Alors, ça dit qu'en suivant ce tableau que vous avez dressé de haut grâce à Sapati de Kananga, le secteur de la justice reste un très grand chantier qui demande à ce que beaucoup d'efforts soient fournis, maître, pour réagir à tous ces cas dont vous avez évoqué tout à l'heure sur les anciennes jurisprudences, et vous estimez qu'il y a beaucoup de légèreté aujourd'hui. Alors on va écouter Jérémy qui est à Lubumbashi revenir dans ce studio pour que maître Georges Kapiamba puisse réagir. Jérémy, merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Bonjour.
Oui, bonjour monsieur Pierrot. Bonjour également à l'invité. Je pense d'entrée de jeu, il est clairement dit dans la Bible d'ailleurs que la justice élève une nation. Si ce passage peut nous servir de principe fondamental. Nous pouvons nous dire tout, hein, sans peur d'être contredit, mais pour dire que si une nation se tire vers, est tirée vers le bas, c'est que la justice, elle qui est à la base de toute la situation, c'est elle-même qui se traîne. Lorsque la justice de notre pays se rendra compte que réellement elle jouit de son indépendance comme le pouvoir exécutif, c'est à ce moment-là que l'état de droit prôné par le chef de l'État va s'ériger vraiment en lion avec des dents sorties dehors. Parce que jusque-là, je compare la justice de notre pays comme un lion qui vit, mais qui est dépourvu de dents. Pourquoi je l'ai dit? Vous savez qu'il y a des gens au jour d'aujourd'hui qui devraient normalement se retrouver en prison, mais ils sont en train de marcher paisiblement, tout simplement à cause des trafics d'influence et à cause, parce que vous savez que c'est l'exécutif qui définit la politique générale de notre pays, mais il se fait malheureusement qu'aujourd'hui, si nous nous posons la question, les agents judiciaires, combien ils touchent? La rubrique salariale pour les agents de la justice est vraiment en dents de scie, parfois 20 fois moins que celle de ministre. Comment voulez-vous que la justice soit rendue dans un pays? Et là, je peux me substituer à la justice pour dire, dis-moi combien tu me payes, je te dirai combien je dois rendre justice. Comment voulez-vous aujourd'hui que la corruption cesse? Jusque-là, avec une justice sélective, non distributive. Comment voulez-vous que la justice soit indépendante?
Voilà.
Là, je félicite la CAGE pour
le travail
la
fait.
Clairvoyance.
Voilà. C'est-à-dire qu'en vous écoutant, Jérémy, merci beaucoup, Jérémy, hein, vous êtes à Lubumbashi. En vous écoutant, on comprend qu'il ne suffit pas seulement de pouvoir l'exprimer. Mais vous avez quand même dit un élément important, c'est l'exécutif qui définit, hein, la politique d'une nation. On va voir avec notre invité. Je ne pense pas qu'il y ait un seul gouvernement qui n'a jamais dit qu'il ne veut pas valoriser la justice, qu'il ne veut pas d'une justice indépendante. 081-890-4969. Et je rappelle encore que nous tenons ces débats sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Maître Georges Kapiamba, vous avez suivi, j'ai aimé comme ce que Jérémy a dit, c'est l'exécutif qui définit la politique d'une nation.
Tout à fait.
Je me rappelle, aucun gouvernement dans son programme d'action ni dans son discours n'a jamais dit qu'ils aiment la justice, une justice indépendante.
Ouais.
On a senti ça dans le propos du chef de l'État. Il ne suffit pas seulement de les déclarer.
Non, il ne suffit pas. S'il faut commencer par Jérémy, qui est le dernier intervenant, il faudrait que le peuple congolais ouvre les yeux. Il ne faudrait plus qu'on continue à se laisser berner par des bons discours, c'est-à-dire des discours politiques mielleux, de déclarations d'intention pour dire nous allons donner des moyens, mais dans la pratique on ne les fait pas. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu cette fois-ci lancer cette alerte en ce moment, c'est-à-dire à quelques mois, soit 4 mois de la session budgétaire, pour mobiliser les uns et les autres autour de la nécessité de donner des moyens à la justice, pour aussi enlever aux magistrats les prétextes qui semblent être tout le temps brandis en disant s'il y a des abus commis par certains magistrats, c'est parce qu'ils sont mal rémunérés. Commençons aussi par leur enlever ces prétextes. Mais nous n'acceptons pas qu'on puisse justifier les abus par les mauvais ou par les maigres salaires, parce que les magistrats ne sont pas les seuls à être mal payés dans ce pays. Les autres agents et fonctionnaires de l'État, comme Jérémy l'a mentionné, les agents d'appoint, c'est-à-dire les greffiers, les huissiers et tous ceux qui participent, les APJ, ne sont pas bien payés. Et donc, si nous disons que parce que nous ne sommes pas bien payés et que nous ne pouvons pas consentir les sacrifices pour que les choses marchent, à ce moment-là, nous travaillons contre notre nation. D'autant plus que pour qu'on améliore les conditions, qu'on donne des moyens financiers et logistiques. Mais nous devons contribuer à la production, à la maximisation des recettes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui détruit, qui tue notre pays? et que le gouvernement n'est pas en mesure de réaliser beaucoup de moyens, on ne dépasse jamais un budget, on ne dépasse jamais 4 milliards. Pourquoi ? Parce qu'il y a le coulage des recettes, il y a la corruption, le détournement des deniers publics. Mais qui doit être ? Quel est l'instrument qui doit être ? En dehors des autres organes de contrôle comme l'IGF, comme la CNRF, comme l'APLC, qui font aussi déjà un travail important pour stopper l'hémorragie, mais c'est la justice qui doit aider l'État, notamment en sanctionnant, en récupérant l'argent ou les biens volés à l'État. Donc nous avons voulu lancer aussi un appel pathétique, patriotique aux magistrats pour qu'ils comprennent que la reconstruction, la mobilisation des recettes, c'est premièrement l'affaire qui est, ou bien la responsabilité qui leur incombe. Alors, il a dit que il faudrait que la justice soit réellement, se traduise par un lion qui a réellement des dents. C'est vrai. Il faut que la justice arrive à accomplir ce rôle-là en se montrant réellement comme un lion qui sait intimider, qui sait attaquer et stopper les dérives qui sont constatées chaque jour dans la collecte et les dépenses des deniers publics. S'il ne le fait pas, il ne va pas mériter toujours une quelconque considération. Alors, Pierre a parlé des maigres salaires. Ça, nous l'avons dit. Nous avons dit que parmi les causes, c'est le fait que les gouvernements, ainsi que les parlements, qui traitent en amont comme en aval, l'adoption du budget, se permettent tout le temps à faire des coupes seulement, principalement, sur les rubriques qui concernent les pouvoirs judiciaires.
Et puis, alors, revenu sur la question de la séparation du pouvoir, oui.
Je donne un exemple. Mm-hmm. Quand vous prenez une des chambres du Parlement, comme le Sénat, qui, au cours d'une année, dépense 100 millions de dollars pour son fonctionnement avec tous les autres frais, alors que le pouvoir judiciaire ne reçoit même pas plus de 5 millions pour toute l'année, vous voyez déjà le déséquilibre qui est consacré. Est-ce que c'est normal? Alors que le pouvoir judiciaire, quand vous mettez tous les personnels, vous mettez les magistrats qui sont à plus de 2500, vous ajoutez les personnels d'appoint, ils peuvent nager jusqu'à 4000, mais ceux qui ont un gros nombre de femmes et des hommes qui travaillent pour la nation, au même titre que les sénateurs, eux reçoivent pas plus de 5 millions là, pas plus de 10 millions là. Est-ce que c'est normal? Donc il faut que nous puissions tous nous mobiliser pour faire cesser cette injustice qui leur est appliquée. Mais nous disons que cela ne doit pas être utilisé comme prétexte, parce que si nous aimons notre pays, nous devons aussi nous sacrifier pour que nous puissions aboutir à un résultat. Non, respect de la séparation des pouvoirs, bien sûr. Déjà à partir du moment où c'est le gouvernement qui coupe les rubriques, qui coupe les budgets, qui réduit les budgets du pouvoir judiciaire, sans aucune explication plausible et objective, alors que lui-même, ça dige beaucoup, ouais, disons, la part du lion. Parce que regardez, quelles sont les institutions qui font les dépassements budgétaires? C'est le gouvernement.
La présidence.
Voilà. En commençant par la présidence, ouais, le gouvernement, mais aussi les pouvoirs, les parlements. Mm-hmm. Alors que le pouvoir judiciaire est abandonné. Donc, il faut qu'on résolve cette question, parce que si on ne donne pas de moyens au pouvoir judiciaire, ça veut dire on veut tout simplement lui enlever son indépendance et la séparation des pouvoirs ne peut plus être respectée. Hippo a parlé du chemin qui est encore long. C'est vrai, le chemin est encore long, parce qu'il faut que les gens se battent pour arriver à conquérir réellement l'indépendance du pouvoir et une justice forte et efficace. Mais ça doit être l'affaire de nous tous. Nous, la CAGE, nous faisons, nous accomplissons déjà notre part. Vous, les médias, vous le faites déjà en nous offrant cet espace. Maintenant, les autres citoyens, comme eux, ils doivent aussi accomplir leur part. Par exemple, en envoyant des lettres au président de la République, au premier ministre, aux responsables du Conseil supérieur de la magistrature, pour s'inquiéter, comme notre ami de Kananga dit, s'inquiéter du fait que la justice n'est pas distributive. Elle est maintenant fondée sur l'avoir et le pouvoir. C'est anormal. Donc, ce sont là les moyens d'action qu'ils peuvent aussi utiliser en tant que citoyens pour faire changer les choses.
Voilà. Il y a notre ami Christian qui est ici à Kinshasa. Christian, merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Bonjour.
Bonjour, Pierrot.
Christian, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour, Pierrot. Bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Oui, merci beaucoup Pierrot de la parole accordée une fois de plus. Personnellement, je crois que cette situation a été déjà prévisible, l'inaction de la justice congolaise. Étant donné que cette justice a été toujours caractérisée par le passe-droit, et donc notre appareil judiciaire, jusque-là, vraiment n'a pas encore redoré et son blason terni. Et parce que le plus grand problème aujourd'hui se trouve être dans le chef de ses animateurs, qui sont aujourd'hui à continuer à caresser, n'est-ce pas, les anti-valeurs. Et à cela, il faut d'abord comprendre que le plus grand problème, c'est au niveau du recrutement. Comment est-ce que ces magistrats ont été recrutés? Comment est-ce que ces magistrats ont été promus? La promotion, nous le savons très bien. En fait, c'est l'objet d'un club d'amis. Pour être promu, il faut être poste 2. Pour être recruté, nous savons comment ça a été. Le phénomène enfant d'abord, les enfants d'abord, a ressurgi, même dans les recrutements qui se fait en 2010. Et aujourd'hui, depuis 2010, les recrutements ne se fait plus. Alors, comment est-ce que, l'appareil judiciaire est justement rajeuni? C'est par des méthodes peu orthodoxes. Et donc, il faut d'abord commencer par cet état des choses, songer les mots des recrutements. C'est d'abord que nous pouvons justement arriver, n'est-ce pas, à incarner un changement que nous avions vraiment voulu. Et donc, aujourd'hui, au-delà de cet élément, moi, je crois que il y a, mes prédécesseurs l'ont également évoqué, l'aspect concernant comment les moyens, la disponibilisation des moyens. Donc ici, il faut vraiment utiliser de manière concomitante, que ce soit les réformes tant sur le plan des recrutements, sur le plan sur le plan même du fonctionnement de l'appareil judiciaire. Il faut les utiliser au même moment parce qu'aujourd'hui, les moyens logistiques posent problème. Les magistrats pour se déplacer, c'est tout un problème. Combien de magistrats aujourd'hui à Kinshasa ont refusé de regagner leur poste parce que là-bas, il n'y a pas de vie? Combien parce que là-bas, il n'y a pas de maison? Combien parce que là-bas, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de primes? Et donc aujourd'hui, les magistrats deviennent en fait les bourreaux même des justiciables. Ils cherchent comment rançonner les justiciables pour s'y retrouver. Parce que l'État les a mis dans une situation un peu confortable. Et donc aujourd'hui, Pierre Lamège, pour imprimer l'État des droits, je crois que la bonne marque même de l'État des droits, il faudrait vraiment repenser cet état des choses. Parce qu'aujourd'hui, il serait vraiment trop demandé.
Mais vous avez quand même soulevé un élément important, vous avez ajouté un élément important, vous avez évoqué la question du recrutement, de la promotion, comment tout cela se passe-t-il, comment les personnes sont recrutées, comment ces personnes sont promues, ça aussi, ça a une influence sur le fonctionnement de la justice. Franck, merci de nous avoir rejoint, de Vienne, bonjour.
Bonjour notre ami Pierrot, bonjour à l'invité, aux amis qui se sont déjà exprimés, puis à vos collègues au studio.
On vous écoute, oui.
Oui, merci beaucoup. Nous devons commencer par rappeler que chaque société ne peut se développer que sur base de la vision de ses membres. Et les citoyens congolais que nous sommes aussi tous des produits de notre société congolaise. Et si la plupart de nos compatriotes connaissent déjà des faiblesses manifestes à caractère moral et éthique, si la cartographie de certaines nominations à certaines sphères de la gestion directe n'est que l'émanation des velléités du régionalisme et du primalisme, du moment où la politique prend chaque fois le dessus sur les droits, pourquoi nous étonner de nous retrouver en face de tel rapport? Et personnellement, je trouve qu'un tel rapport sur l'inaction du pouvoir judiciaire ne peut nous surprendre en République démocratique du Congo, car nous savons convenablement comment fonctionne la justice, par rapport à quels critères étaient rendus. Et un tel rapport ne peut nous surprendre du moment où nous savons selon quelles conditionnalités certaines nominations et promotions se font, au sein même des pouvoirs judiciaires, et par rapport à quel aspect un certain nombre de décisions de justice sont prises. Et quand nous devons maintenant voir comment ça se passe chez nous, je crois que nous, citoyens congolais, nous devons d'abord arriver à nous remettre en question par rapport à ce que nous faisons. On aspire au développement, on veut faire développer d'une manière, on le dit, mais d'autre part, à travers notre manière de faire, de rendre justice, de gérer, on se rend compte que nous tirons par le bas. Et si nous devons bien voir, il y a toujours et polarisation. On exploite ceux qui sont au pouvoir, on va recruter un groupe de magistrats pour soutenir, pour avaliser, on va recruter un certain nombre de journalistes, on va recruter un certain nombre de musiciens, on va recruter un certain nombre d'artistes et comédiens pour faire des publicités, mais au demeurant, on se rend compte qu'on n'avance pas parce que la réelle politique, la bonne justice, n'est pas seulement faire de la publicité, n'est pas seulement faire des forcing. Et je crois que par rapport à ce qui se passe là, il faut que nous, citoyens congolais, qu'on arrive d'abord à nous poser des questions sur le sens de l'avenir que nous voulons pour notre pays. Mmh. Et on l'a toujours dit que le problème de la RDC, c'est toujours un problème d'homme. Alors, pour arriver aux suggestions, j'ai suivi votre invité qui parlait de subventions, mais c'est tout à fait problème, mon ami Pierrot. Quand on élabore le budget national, on pense qu'on peut nous dire quel est le pourcentage qu'on alloue au ministère de la Justice par rapport à son fonctionnement, quel est le pourcentage des salaires qu'on alloue et aux magistrats et aux juges et à tous les autres cadres qui prestent là comme agents judiciaires, les OPJ et tous ces gens-là. Mmh. Et comment nous pouvons espérer avoir une justice de qualité alors que le pays est gouverné par, sur base des inégalités. Il y a des inégalités au niveau des frais de fonctionnement, il y a des inégalités au niveau des salaires, il y a des inégalités au niveau même des infrastructures. Parfois, quand vous circulez dans certains coins de la République, vous allez voir que tel bâtiment a été réhabilité, le fonds est venu de l'Union européenne. Tel bâtiment du ministère de la Justice réhabilité, le fonds est venu de l'Allemagne. Mais notre pays ne devrait pas seulement attendre les fonds pour réhabiliter, alors que quand on parle de détournement, nous détournons à millions. On n'a pas honte de dire qu'on détourne à millions, mais parfois nous devons demander 500 000 dollars pour aller réceptionner. Mais il y a aussi une question de fierté nationale et un pays.
Voilà. Alors, parce que vous l'avez dit, Franck, que ce qui se passe au niveau de la justice n'est que le reflet de notre société. C'est pourquoi vous insistez sur la remise en question, parce que nos institutions ne sont que le reflet de notre pensée, notre manière de choisir, notre manière de faire. Et vous avez demandé à ce que chacun puisse arriver vraiment à une remise en question. Qu'est-ce que nous voulons réellement? Quel type de pays nous voulons avoir et quelle justice nous voulons avoir dans les temps? Alors, on va écouter les deux derniers auditeurs, Emina qui est à Bukavu et Alfred qui est à Lubumbashi, je crois bien. Emina, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à toute l'équipe de la Parole aux auditeurs, bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute.
Alors vraiment, nous félicitons sincèrement la CAGE avec le travail à bâtir. Le rapport présenté par la CAGE montre en suivant que cette association est déterminée pour aider les autorités à relever certains défis. Mais nous savons très bien que la justice actuelle est taillée sur mesure, d'autant plus que certaines autorités, soit certaines personnalités gouvernementales, l'utilisent comme bouclier. C'est pour cela que nous pouvons regretter, nous pouvons vraiment être désolés de la manière dont la justice est en train de fonctionner. Pourquoi je peux dire ça, M. Pierrot? Comme on peut dire, on peut voir un militaire, soit un soldat entrer en grève. Et pourtant, naturellement, les organes, soit les agents de la justice, soit les magistrats ou les avocats, sont de nature indépendante. Et si vous trouvez que la justice commence à être penchée pour une partie gouvernementale, c'est une désolation. C'est pour cela que nous voulons qu'on puisse d'abord restructurer les choses. La manière dont, je crois que l'avant-dernier auditeur l'avait souligné, la manière dont les personnalités juridiques, soit les magistrats accèdent aux fonctions, ne peuvent pas vraiment laisser croire qu'elles ne peuvent pas aussi défendre à leur camp politique. Parce qu'on peut voir quelqu'un qui est magistrat, automatiquement promu comme président de la Cour constitutionnelle, vraiment se compliquer.
C'est-à-dire qu'ici, vous avez peur. Oui. Éminent, quand vous avez dit tout à l'heure qu'il y a les politiques qui utilisent la justice comme leur bouclier, pour vous, quand quelqu'un est promu, tout de suite, il pense à qui lui a permis d'arriver à ses postes et c'est comme ça qu'il répond à ses injonctions. Merci beaucoup, Éminent. On va y terminer avec vous, Alfred. Bonjour.
Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute, Alfred.
Oui, concernant la justice, en tout cas, il y a trop de problèmes dans notre pays. Tout d'abord, premièrement, il faut savoir comment les magistrats, les procureurs, les OPJ, les gens qui sont chargés à dire le droit et appliquer correctement les lois sont recrutés. Ça, c'est le premier point. Ces gens-là, normalement, vous allez voir, ils sont recrutés, nommés sur base des liens de clientélisme, de tribalisme, de népotisme. Ce sont les frères, les sœurs, les cousins, les petits frères, les fils qui sont nommés magistrats, procureurs et puis les OPJ. Ça pose problème parce que la justice doit être au moins assurée par ces gens-là. Ils sont chargés de rechercher les infractions, de poursuivre les auteurs et de les punir. Mais pourquoi ils ne le font pas? Dans la plupart des cas, il se trouve que les gens qui commettent des infractions se retrouvent liés avec les gens qui doivent les punir par des liens de népotisme et tribalisme. Ça pose problème. Je propose pour remédier à la situation de justice dans notre pays, il faut vraiment agir, prendre les choses en main. Les premiers magistrats, parce que c'est lui qui nomme les magistrats, les procureurs et les OPJ, il doit prendre les choses en main en sanctionnant les gens qui sont impliqués dans les histoires de corruption, des impunités. Parce que moi, je pense que si celui qui nomme tape sur la table et dit c'est fini, vous êtes pris dans les histoires de complices de corruption, de détournement, d'impunité, vous êtes mis dehors. Non seulement vous êtes viré de la justice, mais vous êtes aussi condamné, sanctionné. En tout cas, pour moi, la contrainte ou la peine peut arriver à changer l'homme.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Alors, il y a les débats qui se poursuivent sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Avant peut-être de terminer, on me fait signe que Maître Edmond nous a aussi rejoint. Il est en Bandaka. Maître Edmond, bonjour.
Bonjour, Monsieur Pirou. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Café.
Et surtout, rapidement, votre réaction par rapport à ça?
Moi, je pense que sur le fonctionnement de la justice dans notre pays, j'ai suivi la déclaration de Akaj. Je pense que je suis aussi de ses côtés et que la justice dans notre pays a presque dégringolé. Et depuis que le président de la République, le président qui est là, il a essayé un peu d'initier quelques réformes mineures, mais qui ne suffisent pas. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, nous traversons un point terrible de la justice, parce que la justice, d'abord, il y a un problème de carence de magistrats. Et cette carence permet à ce que les justiciables ne soient pas satisfaits, ne soient pas servis. Il y a un problème de la corruption, il y a un problème de la confusion, il y a le déni de justice. Voilà, donc il y a presque toute une ribambelle de gentilles valeurs qui circulent au sein de la justice congolaise. Voilà pourquoi je pense que nous prions au chef de l'État de pouvoir profondément réformer ce secteur si important, afin que lui aussi, pendant ce mandat, et même nous qui sommes de la population, nous qui sommes véritablement vivre un état de droit, et aussi que la politique puisse cesser à manipuler la justice. C'est ça aussi un défi.
Merci beaucoup.
À pouvoir rêver dans notre pays.
Voilà, merci beaucoup, Maître Edmond. On revient à vous, Maître Georges Kapiamba. Maître Edmond a parlé tout à l'heure du chef de l'État. C'est la question d'ailleurs que j'allais vous poser à la fin. On a senti quand même que l'avènement de Félix Tshisekedi, il insiste beaucoup sur cette question de la justice de l'État des droits. Est-ce qu'on peut dire que le terrain est tellement marécageux que c'est difficile vraiment que sa volonté, ses soucis qu'il a, rencontrer vraiment ce qu'il faut sur terrain?
Oui, vous savez, le président de la République, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Donc, à ce titre, la Constitution lui donne beaucoup de prérogatives, un droit de regard. Donc, par exemple, en ce qui concerne le travail de la CAJ, nous avons déjà prévu de mener un plaidoyer auprès de la présidence pour faire connaître de manière détaillée la situation, la photographie de la justice à ce jour, pour que les chefs de l'État sachent aussi prendre des mesures qui conviennent. Et de deux, nous savons aussi que le chef de l'État a déjà donné le temps. Il a rappelé à plusieurs reprises que la justice doit fonctionner de manière indépendante et il a même mis en garde ceux qui tenteraient d'influencer ou d'interférer sur le cours de la justice. Et donc, il revient aussi aux magistrats de saisir de ces discours, de cette volonté exprimée par les chefs de l'État pour travailler de manière à satisfaire aussi aux attentes de la population et du président de la République. Donc, les abus qui sont constatés par-ci, par-là dans les chefs de certains doivent être rapidement réprimés par le Conseil supérieur de la magistrature ou par les chefs hiérarchiques. Et donc, les gens ne doivent pas attendre que les chefs de l'État soient opérationnels au niveau de la justice. Ça, ce n'est pas sa mission. Lui donne l'impulsion, il donne la vision par son discours, par son projet de société. Et le reste maintenant, ce sont les chefs hiérarchiques des institutions judiciaires qui doivent faire suivre au sein du pouvoir judiciaire. Et donc, nous allons continuer avec ces plaidoyers. D'ailleurs, lors de la présentation du rapport, en même ligne, les 12, des collaborateurs du chef de l'État qui a pris la parole, le chargé des missions, a clairement rappelé la vision du chef de l'État qui voudrait que la justice fonctionne conformément aux lois et à la constitution de notre pays, c'est-à-dire en se faisant au moins écarté de tout l'état que nous avons eu à fustiger par le passé. Alors, pour le reste, je crois que ils sont revenus encore sur la question de violations, par exemple, d'égalité des chances dans les recrutements. Non, je voudrais dire à notre ami Christian que la loi ou les mécanismes mis en place à ce jour pour les recrutements permettent au moins de respecter l'égalité des chances. Mais maintenant, c'est dans la pratique où il y a ce trafic d'influence avec ce qu'il a appelé les enfants des magistrats d'abord. Donc, cette pratique est une antivaleur que nous devons tous dénoncer et combattre parce que c'est l'une des formes de la corruption. De deux, il y a quelqu'un qui a évoqué ici la situation de certains magistrats dont, qui mèneraient une vie, j'entends ça, ça me revient souvent, une vie qui dépasserait les niveaux de leur, par exemple, leur rémunération. Ça, les gens s'étonnent, ils disent par exemple, mais quand vous allez dans des palais de justice, vous allez constater qu'ils roulent carrosses, des voitures qui coûtent cher, ils mènent une vie qui va au-delà de ce qu'il est payé. Pourquoi on ne regarde pas ça? Je crois que tout cela, nous pensons que ça arrive dans les oreilles de leurs responsables qui doivent aussi quand même s'étonner de constater que quelqu'un qui a, comme par exemple, rémunération 1 000 $ puisse avoir une voiture qui coûterait 50 000 $, 100 000 $. Ça, ce sont des signes extérieurs qui doivent les faire aussi questionner comment on vivait dans ces pays lorsqu'on vous voit. Vous construisez une maison alors qu'on sait que votre salaire ne peut pas vous permettre de le faire parce que vous n'avez pas hérité ça de vos parents. Mais à l'époque, il y avait des services de renseignement qui faisaient ce travail. On interpellait. Ça se fait même dans toutes les démocraties ailleurs. Donc, ça, c'est un travail qui doit se faire aussi dans la société.
Et parce qu'on doit déjà chuter en amont, y a-t-il une recommandation particulière, surtout en ce qui concerne le Conseil de la magistrature, votre rapport?
Oui. En amont. En amont, ça veut dire nous demandons encore au Conseil supérieur de la magistrature d'élaborer, de prendre déjà des dispositions pour élaborer son budget. Maintenant, avant le mois de septembre, et de mettre en place une équipe d'experts qui doivent aller s'assurer au niveau du gouvernement et aussi du Parlement que ce budget ne va pas faire l'objet de coupes. Et enfin, de veiller à revaloriser la discipline au sein du pouvoir judiciaire.
Merci beaucoup, Maître Georges Kapiamba, président de l'ONG Action Congolaise pour l'accès à la justice à Cage. Merci d'avoir partagé ce moment avec les auditeurs, avec lesquels nous poursuivons le débat sur la page Facebook de Parole aux auditeurs. Polydor Basunga, merci et pour la mise en onde et Jocelyne Mukendi pour la réalisation. Cette émission est sur www.radiocapi.net. Merci et au revoir. Je vous retrouve demain pour un autre numéro.